Est-ce que nous allons bien ? En tant que meilleure église au monde, je trouve qu'on doit bien aller. Amen. Amen. Je trouvais l'image du frère vraiment superbe de se dire on est la meilleure église au monde, parce qu'on est la seule église au monde, hein, l'église de Christ. Mais ça peut aussi dire qu'on est la pire église du monde également, donc il faut pouvoir balancer. Non, mais je crois avec conviction qu'on fait partie du peuple de Dieu. Nous sommes des croyants unis par l'Esprit de Dieu et peu importe là où on va, on fait toujours partie de cette église-là. Et c'est ça qui est important à retenir. Avant de commencer la prédication, je voulais partager un petit peu la saison dans laquelle je me trouve. Actuellement, comme vous le savez, je pratique un ministère à temps plein. Et ça m'amène à rencontrer beaucoup de gens différents pendant la semaine. Souvent des jeunes gens qui sont dans des situations parfois précaires, parfois dans des situations assez difficiles. Et je voulais vous demander de pouvoir, dans les semaines à venir, à pouvoir mettre ça dans la prière. Je rencontre pas mal de gens. Et je vous avoue que parfois, je sors de ces rencontres-là et je me sens un petit peu comme s'il avait manqué quelque chose, peut-être une étincelle céleste. Et je me tourne mon cœur vers Dieu et je me dis que peut-être Jésus, tu aurais trouvé des paroles plus appropriées à dire. Peut-être toi, tu aurais trouvé un impact plus grand. Et je voulais juste vous demander de prier pour ça, qu'alors que je rencontre des gens souvent un à un, dans leurs circonstances, moi ça ne me dérange pas de rencontrer quelqu'un à minuit dans un bar, si c'est ce qu'il a besoin, hein, ça ne me dérange vraiment pas, mais que lors de ces rencontres-là, ce ne soit pas juste des rencontres pour l'idée de les faire, mais que Dieu puisse vraiment agir, et que alors que je parle, eh bien, ce soit Jésus qui parle, et pas Benjamin. C'est vraiment important pour moi de pouvoir voir ça, de pouvoir, alors qu'on va quelque part, moi je suis convaincu que si Jésus il avait une conversation avec quelqu'un, la personne, quand elle s'en allait, elle s'en retrouvait changée. Hein, et c'est le même impact que j'ai envie d'avoir. Donc je vous partage ça. C'est un sujet que j'avais sur le cœur de vraiment pouvoir prier, que je sois fortifié avec ça. Une autre annonce que je voudrais faire, c'est, comme vous le savez, je travaille avec le ministère qui s'appelle Jésus Révolution. Et ce mois-ci, le 22 avril, on a un grand concert qui va se passer au Christian Center. Ça va être absolument énorme. Il y a toute une équipe qui vient, hein, d'environ une dizaine de personnes qui vont présenter vraiment un spectacle, hein, autour de la foi. Ça s'appelle Stories et c'est vraiment quelque chose à voir pour ceux qui ont l'occasion d'être là. Ça se passera au Christian Center à Rhodes-Saint-Genèse le 22 avril, donc c'est samedi, hein, dans quelques samedis je pense, dans deux semaines il me semble. Si vous avez l'occasion d'être là, c'est à 7h du soir. C'est un spectacle, donc un show, hein. Oui, c'est ça, 7h, oui, tout à fait. C'est à 7h du matin, c'est vrai que ce sera un petit peu tôt. Mais donc ce sera bien à 7h du soir au Christian Center à Rhodes-Saint-Genèse. C'est un moment particulier où il y aura tout un spectacle qui est tourné sur ce que Jésus a fait dans la vie de certaines personnes. Il y aura des danses, il y aura des chants, et il y aura aussi une production audiovisuelle qui sera faite là. C'est voir un beau spectacle, mais aussi amener quelqu'un à être confronté à Jésus qui a changé la vie de certaines personnes. Amenez-les avec vous. Si on a bien un appel, c'est de pouvoir présenter Jésus au monde. Et ça, je pense que ça va être fait. Voilà. Je pense que je peux maintenant rentrer dans la prédication. Je vais juste remettre ces moments entre les mains de Dieu. Jésus, je veux te remercier pour ta parole qui va nous toucher ce matin. Je te remercie parce que tu es présent en ce lieu, Jésus. Je te remercie parce que, eh bien, si on est là ce matin, c'est pour entendre ce que tu as à nous dire. Je te demandais de vraiment pouvoir parler à tous les cœurs présents, Seigneur. Je te remercie parce que si on est là ce matin, ce n'est pas un hasard. Tu veux faire une rencontre avec nous. Tu veux parler à nos cœurs, Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est là. Viens parler ce matin à travers ma bouche, Jésus. En ton nom. Amen. Amen. On parlait de la meilleure église au monde. Et la question que moi j'ai envie de poser ce matin, c'est quel genre d'église on a envie d'être ? Quel genre d'église on a envie d'être ? Hier soir, on était avec les jeunes, on a passé un moment dans la prière, et on a, avant d'aller à un événement sur Namur, et on a pu un petit peu se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on venait nous observer ? Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un débarquait un dimanche matin et croisait les bras et nous regarderait ? Il écouterait nos prières, il nous regarderait louer, qu'est-ce qu'il se dirait ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on exprimerait par notre comportement alors qu'on est à l'église ? Hier soir, on pensait ça avec les jeunes par rapport aux prières. Si quelqu'un venait à notre réunion de prière, est-ce qu'il nous trouverait peut-être endormis ? Est-ce qu'il nous trouverait peut-être religieux dans la façon dont on prie? Parfois, on a déjà vu, parfois on met beaucoup de mots spéciaux alors qu'on s'adresse à Dieu. Quelle serait la réaction des gens s'ils écoutaient nos prières? Quelle serait la réaction des gens s'ils nous regardaient? Moi, une fois, je me rappelle très bien, je prêchais à une église, je ne dirai pas laquelle, et c'est intéressant, quand on est devant, on voit tout ce qui se passe dans la salle. Et j'ai remarqué que quelqu'un dormait pendant la prédication. Alors c'était un petit peu mal à l'aise, c'était pas ici, vous inquiétez pas. C'était un petit peu mal à l'aise, mais j'ai franchement eu de la compassion pour la personne qui était là. Et je me suis dit, c'est qu'elle a besoin de sommeil. Mais je me disais, qu'est-ce qu'on exprime quand on est à l'église? Qu'est-ce que notre foi, elle ressort quand même au travail? Qu'on parle de notre présence à l'église, qu'on parle de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça exprime? Quel genre d'église on a envie d'être? Je travaille souvent dans le milieu de la communication. Et il est vrai que souvent, dans le milieu de la communication, on réfléchit au message qu'on veut faire passer. Et c'est la question que je me suis posée ce matin. Quel genre d'église on a envie d'être ou de devenir? Hier soir, on a eu un superbe message de la part d'un jeune d'Amsterdam. Il a 27 ans. Il travaille dans une église à Amsterdam et il partageait que souvent, on posait la mauvaise question à Dieu. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On devrait Dieu, à la fin, ce qu'on fait, c'est important pour lui, mais pas tellement aussi important. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je sois? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Je pense que Dieu est flexible à ce niveau-là, bien sûr, jusqu'à une certaine limite, n'allons pas dans l'extrême, mais ce qui est vraiment important pour Dieu, c'est de savoir qui on est à l'intérieur. Et dans les choses qu'on fait, qui est-ce qu'on reste? Et de la même façon, je pense qu'en tant qu'église, on peut se poser cette question-là. Ce n'est pas tellement ce que notre église va faire. Ce n'est pas tellement le nombre d'événements qu'on va avoir, le nombre de réunions qu'on va pratiquer. Mais quel genre d'église on a envie d'être? Ça, c'est vraiment une question importante. Parce que les choses qu'on va faire vont automatiquement dérouler de l'église que nous sommes. Alors, c'est vraiment une réflexion à se poser. Quel genre d'église j'ai envie d'être, moi, à Bois-de-Villers? Si je fais partie de cette église-là, quel genre d'église je veux être? On veut être, pour moi, je pense, une église qui catalyse. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là, un catalyseur? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là pour certains qui sont peut-être scientifiques. Un catalyseur, eh bien, c'est quelque chose, c'est un élément qui va accélérer une réaction, qui ne l'influence pas en soi, mais qui l'aide à se passer plus vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une combustion, quand quelque chose brûle, si vous jetiez une bulle d'oxygène dans cette réaction-là, eh bien, il y aurait encore plus de carburant et ça brûlerait encore plus vite. Mais il y a d'autres types d'éléments qui n'agissent même pas au niveau de la réaction et ne font que la mettre en valeur. Ils ne font que l'accélérer. Et si on a bien envie d'une chose, c'est d'être une église qui catalyse le royaume de Dieu, qui accélère la venue du royaume de Dieu, qui accélère la venue des choses que Dieu veut amener. Je pense qu'on veut être un lieu où la présence de Dieu est cultivée. On veut être un lieu en tant qu'église où la présence de Dieu est cultivée. Alors bien sûr, je suis certain qu'on a tous entendu ça, nous sommes l'église. L'église n'est pas un bâtiment, mais c'est nous qui constituons l'église comme des pierres vivantes. Si c'était juste le bâtiment ici qui était l'église, on n'irait pas très loin. Nous sommes l'église, mais quand nous nous réunissons, quand nous sommes cette église, on veut être un endroit où la présence de Dieu est cultivée. Il y a quelques semaines, j'ai fini le livre d'Exode où Dieu explique comment il a choisi la nation d'Israël et l'a fait sortir d'Égypte à travers son serviteur Moïse. Dieu les a choisis et a décidé de les établir sur les autres peuples. Alors que Dieu donnait ses commandements à Moïse, le peuple a choisi de faire un veau d'or. C'était assez choquant à quelle vitesse ils venaient de sortir d'Égypte, ils venaient d'expérimenter la puissance de Dieu de façon assez extraordinaire. Dieu a fait des miracles très puissants. Et si on regarde un petit peu le contexte historique, on voit que Dieu établissait sa puissance à travers chaque idole. Il y avait certaines idoles qui étaient représentées, par exemple le Nil. Un dieu représentait le Nil en transformant l'eau du Nil en sang. Un dieu établit son autorité, sa puissance sur une idole. Oui, le dieu d'Israël est plus fort que cette idole-là. Et bien sûr, jusqu'à être au-dessus du pharaon même, lorsque même le premier dé du pharaon meurt, le pharaon était vu comme une sorte de demi-divinité, de divinité même parfois. Dieu établit son autorité. C'est souvent pour ça que dans la Bible, quand on lit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ce que l'auteur fait, en fait, c'est qu'il isole vraiment le pharaon en tant qu'humain et pas en tant que Dieu. Hein? C'est pour dire que Dieu était au contrôle de toutes choses, même du cœur de Pharaon. Hein? Si l'auteur n'avait pas mis ça, on aurait pu penser que c'était une lutte entre deux dieux. Hein? Mais pour l'époque actuelle, quand il est mis que Dieu endurcit le cœur du Pharaon, c'est-à-dire que Dieu il est au-dessus de tout ça. Il contrôle les choses. Et j'ai lu tout ce que le peuple d'Israël devait faire pour avoir une relation avec Dieu. De l'extérieur, les sacrifices qu'il fallait faire, je suis dans un livre Lévitique, Deutéronome, ça explique comment il fallait s'approcher de Dieu, ça explique comment Dieu avait une part du peuple d'Israël, parce qu'il les avait sauvés d'Égypte, mais il avait épargné tous les premiers-nés, ça explique pourquoi il a choisi le peuple des Lévites pour instaurer les sacrifices. Et quand je lis tout ça, on peut se dire que c'était vraiment compliqué d'approcher Dieu. C'était quand même compliqué d'approcher Dieu. Mais ce que Dieu est en train de faire comprendre au peuple d'Israël, c'est que Dieu est saint. Et ça, c'est une notion qui était difficile à comprendre pour les gens là-bas à l'époque. Essayer Dieu qui s'introduit au peuple d'Israël et qui doit essayer de leur expliquer qui il est, les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas. Et la meilleure façon d'expliquer à quelqu'un, c'est de mettre des limites, un cadre. Si tu t'approches de moi et que tu n'es pas pur, tu meurs. Tu meurs, ça c'est la sainteté, ça va si loin que si tu t'approches de moi et que tu n'es pas pur, tu meurs. Si tu commets un acte mauvais et que tu viens dans ma présence, tu meurs. Si tu essaies de toucher quelque chose qui m'est consacré, tu meurs. Ça peut sembler un petit peu violent, mais il faut bien imaginer que dans quelques chapitres, on voit l'éducation que Dieu met au peuple d'Israël. Il explique qu'il ne faut pas tuer ses parents, qu'il ne faut pas sacrifier ses enfants. Hein, si Dieu l'explique, c'était que ces choses-là arrivaient à l'époque. Et on peut voir que Dieu est vraiment en train d'éduquer le peuple à venir à lui. Et le peuple n'avait pas compris que Dieu avait un désir profond de relation. Dieu avait vraiment un désir de relation. Quand il parle de Moïse, il parle de la relation qu'il a avec Moïse. Il ne parle pas du fait qu'il y a de la religion. Pourtant, le peuple veut un système carré. Il veut pouvoir contrôler Dieu. Il choisit la religion. Il choisit vraiment un système. Le peuple voulait la religion. Dieu avait décidé de faire résider sa présence dans la tente de la rencontre et il a établi un ordre de sacrificateurs. Le peuple voulait que Dieu et eux puissent dans une espèce de relation de transaction, c'est-à-dire un contrat dans lequel ils étaient gagnants. Mais Dieu, il a vu au-delà de tout ça, bien sûr, il a vu le plan qu'il avait en général pour l'humanité et le plan qu'il avait, c'était de pouvoir établir une relation. Et nous, maintenant, on est dans cette époque où on est capable d'avoir une relation directe avec Dieu. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais si on relit l'Ancien Testament et qu'on lit toutes les choses qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu, on peut commencer à comprendre, de se dire, « Ok, moi, je ne suis même pas comme Moïse qui pouvait voir Dieu face à face. » Non, 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 mais ça va même plus loin que ça. Dieu a choisi de faire résider sa présence en moi. Dieu a choisi de faire résider son esprit en moi. Moi, je suis capable de pouvoir aller dans le lieu très saint, hein, de pouvoir vraiment m'adresser à Dieu même et de pouvoir lui parler. Si je vous disais que vous avez une ligne directe pour parler à Dieu et entendre sa voix, je suis certain que vous me demanderiez le numéro, mais je vous dis oui, non, on a tous une ligne directe pour parler à Dieu et entendre sa voix. Hein. Parfois on peut se dire, mais t'es sûr, parce que moi parfois j'ai du mal à l'entendre, mais si on réfléchit sa parole, la Bible, c'est une ligne directe pour entendre la voix de Dieu et comprendre sa volonté. Et parfois, il faut se le rappeler, on veut être ce lieu en tant qu'église où la présence de Dieu est cultivée. Où quand les gens ils entrent ici, ils sentent qu'il y a la présence de Dieu qui réside. Hein, Dieu a choisi de faire demeurer sa présence en ce lieu. Hein. On peut voir quand Dieu apparaît au peuple d'Israël, qui fait résider sa présence dans un arbre qui ne brûle mais qui ne se consume pas. De la même manière, la présence de Dieu qui réside en nous, hein, on veut aussi qu'elle puisse résider là où on va. Dans ce lieu ici, dans cette pièce physiquement, mais aussi dans nos vies à nous. On veut là où on marche, quand les gens ils entrent ici, ils sentent qu'il y a la présence de Dieu, que Dieu est là pour les rencontrer. Hein? Dieu est partout, mais il y a des moments où il choisit de faire résider sa présence dans des lieux ou des personnes. C'est ce que la Bible nous apprend. Et je pense qu'on peut être ces personnes-là, où la présence de Dieu réside. Également, on veut être sensible au Dieu. On veut être sensible aux dons que Dieu a mis en chacun, spécialement dans les jeunes. Si on n'offre pas un endroit pour qu'on exprime nos dons, c'est parfois difficile pour nous de comprendre qui on est en Christ. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un certain design, un certain dessein, et c'est notre responsabilité de pouvoir pratiquer les dons que Dieu a mis en nous. J'avais déjà prêché une fois là-dessus, c'est important de pratiquer les dons que Dieu a mis en nous, mais je pense avec conviction qu'on doit pouvoir se donner de l'espace à l'un et à l'autre de pouvoir pratiquer les choses que Dieu a mis en nous. Imaginons que Dieu nous ait appelés à écrire des pièces, des partitions musicales. Si c'est un don que Dieu a mis en nous, je pense profondément qu'on doit pouvoir se donner de l'espace pour pouvoir écrire de la musique. On doit pouvoir exprimer qui on est. Si Dieu a mis des dons comme ça en nous, le don de s'occuper des gens, ça vient naturellement, le don de prier, on doit pouvoir mettre du temps à part pour prier. On doit pouvoir mettre du temps à part pour pouvoir exercer les talents naturels et spirituels que Dieu a mis en nous. C'est vraiment important parce que si on ne fait pas ça, on est un petit peu étouffé. On est un petit peu mis en cage. C'est bien sûr, dans les responsabilités pastorales, c'est bien sûr les responsabilités pastorales de pouvoir donner une place aux gens, d'exprimer le don que Dieu a mis en eux dans un certain cadre, de façon à pouvoir canaliser ça de la meilleure manière, parce que dans certains cas, quand on exprime nos dons, on les exprime tellement fort que ça casse un peu tout. Mais ça, c'est la responsabilité pastorale de pouvoir mettre un cadre à ça. Ok, moi, je vais donner une place pour pouvoir exprimer ces dons-là. Ça peut être simplement de pouvoir avoir des conversations vraiment honnêtes avec les gens. Ça peut être des choses très simples. Si quand on parle avec des gens, on est capable de faire preuve d'empathie, de connecter avec eux, on doit pouvoir faire ça. Ça peut être aussi des choses un petit peu plus pratiques. Si Dieu nous a donné des talents naturels, que ce soit la maçonnerie, chauffagiste, tout ce que vous voulez, parfois mettre nos compétences humaine au service du royaume de Dieu, ça peut aussi nous nourrir. Je travaille beaucoup avec un artiste, un graphiste, et constamment il a besoin d'être dans ce mode de création, il a constamment besoin de ça. Et pour donner du sens à ce qu'il fait, une partie de son temps doit être consacrée à offrir ça à l'église. J'ai déjà remarqué que même quand il est vraiment dans des moments financiers critiques, il doit quand même mettre à part une certaine partie de son temps à pouvoir construire le royaume de Dieu. Sinon, il sent qu'à l'intérieur, il a l'impression un petit peu de mourir. Je pense qu'on doit être ces gens qui pratiquent les dons que Dieu a mis en eux et qu'on donne une place aux dons à pratiquer ces dons-là, spécialement envers les jeunes. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il y avait deux artisans qui furent choisis pour façonner les choses du temple. Dieu a expliqué à Moïse comment façonner les choses du temple, et ils firent des choses magnifiques pour Dieu. Par exemple, Aaron, en tant que grand prêtre, il a reçu une parure d'or, on l'appelait l'éphod. C'était un grand pendentif qui était porté à l'avant, et il y avait 12 pierres précieuses dedans, dans lesquelles on avait chaque fois gravé le nom de chaque tribu d'Israël. Il y a souvent des gens qui nous inspirent par leur art. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à des gens qui sont passionnés. Moi, si j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de demander à quelqu'un où c'est sa passion. Pourquoi ? Parce qu'alors, je vais apprendre beaucoup mieux, je trouve. Il y a quelque chose qui se fait dans leur enthousiasme quand elles me parlent. Ça rentre, c'est coincé dans ma tête. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui étudie la médecine. Il m'a expliqué un jour, c'était quoi le diabète de type 2. Je me souviens toujours aujourd'hui, c'est quoi le diabète de type 2 et dans quel cas tu l'as. C'est bizarre, mais il était tellement passionné. C'était lors de ses examens par tout le fonctionnement qu'il me l'a réexpliqué vraiment comme un professeur d'université. Et maintenant, ça m'a gravé dans la tête. C'est vraiment assez aléatoire que je sais c'est quoi le diabète de type 2. Mais parce que quelqu'un de passionné me l'a expliqué, je le retiens. Et je pense que c'est là qu'on peut voir dans nos passions les choses que Dieu a mis en nous. Dans nos passions, c'est-à-dire les choses qu'on fait sans donner un effort. On doit pratiquer les dons que Dieu a mis en nous, mais donner de l'espace aux gens pour pratiquer ça. C'est le genre d'église qu'on a envie d'être. Si on voit des gens qui ont des dons au niveau de l'évangélisation, de la prédication, de la louange, on veut être un espace qui expose les gens à pratiquer leurs dons. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on va se trouver. J'aime bien quand il faut taper les choses pour les réparer, moi. Ça, c'est vraiment un de mes trucs favoris. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais il y a des vieux appareils, on tape dessus, ça ne marchait pas, et puis ça remarche. Il y a quelques mois, avec un ami, on a eu l'occasion de construire un studio de musique, et on avait une vieille console, vraiment une vieille console, de très bonne qualité, mais elle est vieille. Et il y a de la poussière qui s'est insérée dans les vieux circuits, Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on bouge les potentiomètres? Ce sont les boutons sur la console qui montent et qui descendent. Il y a la poussière qui a un petit peu infecté les circuits, et donc il y a des résistances qui se font quand le courant passe, et ça fait des petites cric, cric. Alors, c'est très facile, il suffit de taper dessus pour réveiller la console, pour un petit peu faire bouger les circuits. Et ça peut vous sembler fou, mais ça marche vraiment bien. Maintenant, ne le dites pas, parce que sinon tout le monde va commencer à taper sur les appareils électroniques. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais je pense qu'il y a des moments où si on a laissé la poussière s'accumuler dans les dons que Dieu a mis en nous, il va nous falloir des petits coups pour se réveiller. Il va nous falloir des petites mises en situation où parfois on n'est pas à l'aise, où on se dit « ça c'est un truc que je ne peux pas faire ». Mais il faut laisser la place à Dieu de nous défier. Il faut laisser la place à Dieu de nous mettre des petits défis en place. Par exemple, moi, un truc qui me mettait vraiment mal à l'aise, c'était de partager ma foi. Partager ma foi dans des circonstances. En fait, c'était avoir l'air stupide. Je pense que c'était plus ça. Avoir l'air bête, parce qu'on est chrétien. Ça, c'est quelque chose qui m'embêtait, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je n'arrivais pas à l'exprimer. Et il y a un moment donné où j'ai vraiment senti Dieu qui m'appelait à vivre une nouvelle saison. Et j'ai commencé à me mettre dans des situations où j'étais obligé de pratiquer ça en moi, de vraiment lutter contre un petit peu ce sentiment de mal à l'aise jusqu'à ce qu'il disparaisse. Parce que je ne voulais pas vivre une schizophrénie spirituelle, être quelqu'un à l'église et quelqu'un alors que je suis avec des amis ou des gens qui ne croient pas nécessairement en Dieu. Je veux que ça fasse vraiment partie de moi entièrement. On peut laisser la place à Dieu de nous donner des petits coups sur la console pour que le circuit du Saint-Esprit, eh bien, il passe bien. On puisse vraiment pratiquer ces dons-là sans les douleurs du passé, sans les choses qui nous ont peut-être faites. Si on a essayé un jour de pratiquer les dons et qu'on est tombé par terre, ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter. Imaginez que Dieu nous appelle à partager notre foi, qu'on va dans la rue une fois, on demande à quelqu'un si on peut lui partager Jésus, et cette personne nous crie dessus, elle se fâche sur nous, elle nous demande comment est-ce qu'on ose faire ça, c'est du prosélytisme. Hein. Est-ce qu'on va se laisser déstabiliser par ça, ou est-ce qu'on va se dire, ok, peut-être ça m'a fait peur, mais ça va, je vais continuer. Et avec l'endurance, pour voir que ça va exprimer quelque chose en nous. Quel genre d'église on a envie d'être? On a envie d'être ce lieu où la présence de Dieu est cultivée, où on offre aux gens une possibilité d'exprimer les dons que Dieu a mis en eux. Très important. Et on veut être aussi un endroit où on laisse la place au Saint-Esprit de venir faire une œuvre parmi nous. Je pense qu'en tant que chrétien, on a envie vraiment d'être ces personnes où le Saint-Esprit agit. Hier, je partageais qu'un jeune homme a prêché à l'événement où on était avec la jeunesse sur l'intégrité. Il a parlé du Saint-Esprit qui pouvait vraiment nous aider à devenir des gens d'intégrité. C'est-à-dire des gens qui, quand ils sont tout seuls, quand on est tout seul, sans que personne regarde, on reste en accord avec ce que Dieu veut, ce que Dieu est, et ces choses-là. Parfois, c'est pas facile. Hein. Parfois, c'est pas facile d'être bon quand personne ne regarde. On sait tout ce qui se passe dans nos têtes. On sait, par exemple, les jugements de valeur qu'on peut faire tout à fait naturellement. On sait comment on gère nos affaires. On sait comment on gère. Nous, on sait. Si on fait un peu une remise en question honnête, on sait qui on est. Et comment est-ce qu'on laisse la place à Dieu pour pouvoir agir dans cette partie-là de notre vie? On veut être des personnes qui laissent le Saint-Esprit venir nous changer aux racines. Vraiment au plus profond que il donnait l'image d'un arbre avec un arbre qui portait des fruits. Quelles sont les parties de l'arbre, hein? Eh bien, le Saint-Esprit va venir s'occuper de nous changer aux racines. Si, par exemple, on ne sait pas, mais il est possible que parfois, sans le savoir, on fasse preuve de racisme. On sait que ce n'est pas une valeur que la parole de Dieu veut mettre en avant. Non, la parole de Dieu, elle voit vraiment les gens qui sont dans leur cœur, et ce n'est pas une couleur de peau ou une culture qui peut isoler quelqu'un. Mais il est possible que dans notre éducation, dans la culture dans laquelle on est venu, le racisme a été imprégné en nous. J'ai déjà rencontré des gens qui sont racistes sans le savoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein, peut-être on n'est pas toujours confronté au racisme si on est belge, mais pour ceux qui viennent d'autres cultures, on peut être confronté à ça en Belgique. Moi, je trouve que parfois les Belges sont racistes, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, si on laisse la place au Saint-Esprit de venir nous changer aux racines, de venir peut-être bouger quelque chose en nous qui a été mal placé, après ça, notre comportement peut changer. Et c'est vraiment important de pouvoir être ces gens qui laissent l'esprit avoir la place dans la vie. Quand on regarde la vie de Jésus, il s'est isolé 40 jours dans le désert, il a résisté au diable et il a été revêtu de l'esprit de Dieu. Il a été revêtu de cet esprit et Dieu a fait résider sa présence en Jésus. Il a bougé avec l'esprit et vous pouvez être certain que Jésus, tous les petits chemins de son cœur, l'esprit, il avait la place là-dedans. Il y avait ça qui était remis en question. Et c'est vraiment important pour nous de faire la bonne chose. Parfois, alors dans notre relation avec Dieu, on laisse l'esprit agir et ça nous demande parfois le besoin de faire des sacrifices. J'avais noté ici, ça peut être des sacrifices au niveau du relationnel, ça peut être des sacrifices au niveau professionnel. Parfois, Dieu, il connaît le futur qu'il a pour nous, il connaît les plans qu'il a pour nous, la personne qu'on doit devenir, pas nécessairement les choses qu'on doit faire. Mais il est possible qu'en prenant ce chemin-là, la personne que je vais devenir, elle n'est pas celle que Dieu veut que je sois. Il est possible que si je vais à cette école de commerce-là, si je rencontre ces gens-là, si je suis formé par ces gens-là, la personne qui va être façonnée, c'est pas le désir que Dieu veut que je sois. Il est possible si je me marie à telle personne, si je vais dans cette direction-là, il est tout à fait possible parce que Dieu voit les choses, il est au-dessus de tout ça, il est là, ce que j'ai pour toi, ce que j'ai pour toi, ce que je réserve dans mon plan pour toi. Moi, je sais ce que j'ai envie que tu sois, je sais la meilleure version de toi-même, je la vois bien, je te vois sans tes échecs, sans tes erreurs. Et Dieu, il nous influence, il laisse la place dans nos cœurs et il nous pousse à pouvoir prendre certaines décisions. Et moi, j'ai vu dans ma vie que quand j'ai fait l'effort de faire ces décisions-là, le return qui s'est passé après, parfois c'était des années plus tard, le return qui s'est passé après, en valait 100 fois la peine, en valait 1000 fois la peine. Moi, je me rappelle, dans ma famille, on a tous des dynamiques familiales, j'ai vécu des moments difficiles avec mon père et mon grand frère. Je parlais à des jeunes cette semaine qui avaient des difficultés dans leur famille, c'est pour ça que entre frères et sœurs, c'est pour ça que je pense à ça. Et j'ai vraiment senti des moments où le Saint-Esprit m'a demandé de mettre le pardon en avant, de mettre les choses en avant par rapport à les choses qui ont été dites ou faites, de faire certains choix, de peut-être pardonner certaines choses qui ont été dites ou faites, de peut-être mettre sa fierté de côté. Et je me rappelle très bien ces moments dans ma vie où j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui a vu des moments clés. Quel genre de personne tu veux être, Benjamin? Quel genre de choses tu veux mettre en pratique? Et je me rappelle que j'ai fait ces décisions à certains moments par rapport à mon père et à mon grand frère, de pouvoir mettre le pardon en avant ou d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand je vois maintenant la dynamique familiale qui a pris place à travers ce chemin-là, je sais que ça a été peut-être dur pendant un moment, mais ça en valait 100 fois la peine. Ça en valait 100 fois la peine. Je suis vraiment heureux d'être dans une famille où entre frères et sœurs on s'entend bien, où on est... J'ai remarqué la plus grande chose que la famille m'a donnée, et je ne suis pas en train de jeter mon bonheur à la figure de quelqu'un ici, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est trouver un principe par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que je n'aurais pas pu le faire tout seul, mais c'est lui qui était là et qui a indiqué la bonne direction. Si je prends un exemple, je remarque souvent, moi avec mes amis, il y a des gens, quand ils ont quelque chose qui réussit dans leur vie, ils n'osent pas le dire. Ils ont acheté une nouvelle voiture, ils ont un nouveau boulot. Ils ont, je ne sais pas moi, il y en a qui osent le dire tout à fait, mais il y en a, ils n'osent pas le dire, ils sont mal à l'aise, parce qu'ils pensent que les gens vont être jaloux. Et ce que j'ai remarqué, c'est la capacité, dans ma vie, à être heureux du bonheur des autres. En fait, c'est génial comme chose. Être heureux du bonheur des autres. Donc, quand quelqu'un vous partage un succès, pas de jalousie, mais d'être heureux, enfin, sincèrement, en nous, « Oh waouh, je suis vraiment content. » Et alors, imaginons quelqu'un, un ami, reçoit une nouvelle voiture. Est-ce que je vais être jaloux parce que je n'ai pas une aussi belle voiture que lui? Ou est-ce que je vais être vraiment content du succès qui arrive dans sa vie? C'est intéressant de voir un petit peu comment Dieu a façonné ça dans ma vie. Je ne sais pas, à un moment donné, ça m'a frappé. Quand quelqu'un était mal à l'aise de me partager le succès qu'il avait dans sa vie, je me disais, mais pourquoi est-ce que... Et je me suis rendu compte, il a été beaucoup confronté à des gens jaloux. Quand on partage le succès, les gens sont jaloux, ils critiquent. Ce n'est pas du tout ça qu'on a envie de mettre en place. On a envie d'être capable d'être heureux de ce que Dieu amène dans la vie des autres. C'est vraiment important. Et je pense que si on laisse la place au Saint-Esprit, parce que c'était juste un exemple, si on laisse la place au Saint-Esprit de faire vraiment le tri dans nos cœurs, la décision que tu as prise dans ta vie, pour Dieu, elle sera récompensée. Elle en vaudra la peine. Peut-être on ne le voit pas maintenant, mais on le verra plus tard. Peut-être ça n'a pas de sens maintenant, mais dans 10, dans 5, 10, peut-être même dans un mois, on verra la plus-value que ça. Souvent, on voit très bien ce genre de décision-là, parce que peut-être on l'a prise, c'était dur pendant un ou deux jours, et puis il y a une paix qui vient nous remplir. On a un poids qui est parti de nos épaules. On a quelque chose de spécial qui se passe en nous, où on est là, ok, c'était douloureux, mais je sens la paix de Dieu dans mon cœur. Parce que je suis au bon endroit, au bon moment, dans mon appel avec Dieu, dans ma vie. Ça, c'est quand même un truc qui est vraiment génial à sentir, c'est quand on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec Dieu dans nos vies. Il y a peut-être tout qui s'est déchaîné autour de nous, il y a peut-être les circonstances qui nous ont, allez, mis à terre, mais on décide de garder nos yeux concentrés sur Dieu, et on se dit, waouh, ok, c'était dur, mais je sens la paix de Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose de divin ici, quelque chose qui va au-delà du regard. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans notre travail d'intégrité. C'est vraiment important de pouvoir laisser la place au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que si on essaie par nos propres forces, on va se retrouver vraiment à terre. Je ne sais pas si vous avez déjà été dépendant à quelque chose. Moi, il y a quelques années d'ici, je fumais la cigarette. Il y a quelques temps, hein. Et c'est dur d'arrêter de fumer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fumé ou qui fument. Mais aller dans le processus d'arrêter la cigarette, c'est vraiment quelque chose de difficile parce que c'est une dépendance, vraiment la nicotine. Ça dure pendant quelques semaines. D'autres formes de drogue, elles durent une semaine maximum. Mais celle-là, elle dure jusqu'à 6 semaines. C'est quelque chose où il faut arrêter. Souvent, les psychologues disent qu'il faut arrêter plusieurs fois avant de vraiment arrêter parce qu'on tombe dans un schéma où on veut arrêter et puis on ne se rappelle plus que ça coûte cher, que ça sent mauvais. Et là, on recommence à fumer, et puis ça coûte cher, on sent mauvais, on veut arrêter, et puis on se rappelle plus de ça, on a juste envie de fumer. Et c'est un cercle un peu vicieux comme ça. Et on se dit, il y a des moments dans notre vie où on a des choses comme ça, où on a envie d'arrêter, mais c'est au-delà de nos forces. C'est au-delà de nous. Et c'est là que le Saint-Esprit, il intervient. C'est là que c'est important de pouvoir laisser le Saint-Esprit agir. Dans la parole de Dieu, il y a un mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit, c'est le paraclétos. Le paraclétos, c'est un mot grec, où dans son histoire, il y avait des gens qui transportaient des sacs de céréales assez importants quand ils revenaient des champs, vraiment des sacs d'une centaine de kilos. Et le paraclétos, au temps de Jésus, c'était un mot qui voulait dire avocat, quelqu'un qui nous défendait. Mais si on remonte encore un petit peu avant, ce mot-là, il voulait dire quoi ? C'était la personne qui venait à côté de toi, prendre le sac que tu avais sur le dos et qui venait le soutenir pour que tu puisses le porter ensemble. Je trouve que c'est une image formidable pour le Saint-Esprit. Le poids qu'on a sur nos épaules, il veut peut-être se mettre juste, allez viens, donne-moi le poids. T'as pas à le porter tout seul. Je suis là pour toi. On veut être une église qui lance des moteurs. Lorsqu'on vient à Christ, il y a parfois des gens qui sont venus nous aider. Ce point-là, je pense, il est vraiment important pour des gens aujourd'hui. Parfois, quand on vient à Christ, il y a des gens qui viennent nous aider, des gens qui viennent nous encourager, des gens qui viennent nous tirer. Allez, viens à la réunion de jeunes, viens à la réunion d'église. Viens à la réunion de prière. Il y a des pasteurs parfois qui sont là ou des chrétiens qui viennent vraiment nous tirer à pouvoir vraiment suivre Dieu. Ce sont des gens dans la vie qui ont une grande importance parce qu'ils ont vraiment, ils nous ont aidés à nous rapprocher de Dieu de façon tangible. Ils nous tirent vraiment vers les choses de Dieu. Mais est-ce qu'on n'a pas un appel à un certain moment dans notre vie chrétienne à nous devenir des moteurs, à nous devenir les gens qui tirent les autres? Est-ce que c'est toujours les gens qui vont nous tirer ou est-ce qu'à un moment donné, le moteur, pour ceux qui ont déjà démarré une tondeuse à gazon, il faut tirer une fois, deux fois, parfois 4, 5, 6 fois. Si le moteur il a des ralentis, c'est parfois très embêtant. Mais bon, il faut parfois tirer beaucoup de fois. Et il y a des chrétiens, il faut beaucoup de fois tirer sur eux. Et puis à un moment donné, le moteur, il démarre. Et c'est un ronronnement. C'est vraiment un moteur bien réglé. Il ronronne comme une voiture au point mort qui tourne. Là, les gens nous tirent plus. C'est nous qui allons tirer les gens à venir à Dieu. La chose très importante à ce point-là, c'est que si on ne devient pas des moteurs, il est possible que notre moteur s'éteigne. Si on ne devient pas des gens qui sont ce moteur, qui s'auto-alimentent, qui passent du temps avec Dieu, où notre intelligence est renouvelée, si c'est à chaque fois les autres personnes qui nous amènent à Dieu, il y a un moment donné, dans notre vie, il est possible que notre moteur s'éteigne, où personne ne nous amène à Dieu. Et si on n'a pas alimenté nous-mêmes notre moteur, si on n'a pas le carburant pour faire ça, si on n'a pas mis des choses en place dans notre vie, il est possible que notre moteur s'éteigne. Je pense que c'est important parfois de regarder à nos vies et de faire un petit peu un schéma. Ok, j'ai ces activités-là, et j'ai ces activités-là, j'ai ceci, j'ai cela. Et il n'y a pas, c'est pas nécessairement des mauvaises choses, mais de se dire, ok, qu'est-ce qui dans mes activités, dans mon agenda, me permet de faire tourner ce moteur? On peut être tellement occupé aujourd'hui. On peut avoir une vie de 7h du matin à 2h du matin, sans problème. Hein, ça fait, il reste quoi, 5h pour dormir, c'est ça? 5h de sommeil, on peut avoir une vie de 2h du matin, de 5h du matin, non, pardon, je me gourre. 7 à 2, oh là là, ça va aller. 7 à 2, ça c'est dans les gens qui font des discours de motivation. Il dit, voilà, la journée de 7 à 2. Si tu veux faire quelque chose, fais une journée de 7 à 2 heures, tu verras tout ce que tu peux accomplir. Hmm? C'est beaucoup, hein? Ça ne fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Hein? Et quand on écoute ces motivational speakers, hein, ces personnes-là, on comprend ce qu'ils veulent dire. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est qu'on a plus de temps qu'on le croit. Hein? Maintenant, on essaie de tenir ce rythme-là pendant longtemps, mais on peut être tout le temps occupé. On peut tout le temps être occupé à faire des choses. Mais à quel moment de la journée on vient connecter à Dieu? Et Dieu est avec nous tout le temps. Hein? Mais à quel moment de la journée on laisse Dieu agir, on laisse Dieu parler dans nos vies, le Saint-Esprit. C'est tellement important. Pour être ce moteur qui démarre et qui avance. Un autre point, quel genre d'église, quel genre de chrétien on veut être, on veut offrir à nos jeunes des expériences fortes. Alors peut-être ça vous fait rire qu'un jeune de 29 ans vous dise ce qu'on doit faire avec les jeunes. Mais bon, hein, tant pis, hein, on n'en est plus là. Je pense qu'aujourd'hui, la génération qui est la mienne et celle qui vient, on a besoin de vivre des choses surnaturelles, des choses, on les appelle les choses empiriques, c'est-à-dire des choses qu'on voit dans nos vies. Si je lis un livre et que ça n'a aucun impact sur ma vie, ça n'a pas beaucoup de pertinence par rapport à moi. Il faut que je puisse vivre les choses. Et on veut offrir à nos jeunes des expériences fortes. On veut être une église qui offre à nos jeunes des expériences fortes. Quand l'église investit de l'argent pour envoyer des jeunes à un camp missionnaire à Madrid, en Italie, peu importe, on a offert à nos jeunes des expériences fortes avec Dieu, des choses qui marquent. Hein, ça devient une occasion à Dieu de pouvoir façonner qui on est, parce qu'on a ces moments surnaturels, ces moments forts dans nos vies. Les jeunes ont besoin de vivre quelque chose de surnaturel qui ne s'arrête pas à venir au culte, mais une expérience qui transcende nos vies. Ça veut dire que ma vie chrétienne, elle ne s'arrête pas au dimanche matin, mais elle peut aussi impacter surnaturellement quelqu'un qui a une maladie, mon ami qui est en dépression, mes amis au travail, les gens que je côtoie dans ma famille. Hein, la vie chrétienne, elle ne doit pas être embêtante pour les jeunes, mais elle doit être quelque chose qui est pertinent. Proposer des moments forts. Parfois, j'essaie d'expliquer aux pasteurs pourquoi je fais des événements en Belgique. Des camps d'été, des équipes ministérielles qui tournent, des équipes de concerts. Et tout ça, en fait, c'est pour pousser les églises à retourner dans un élan d'évangélisation. C'est vraiment toute l'énergie qui est dépensée, c'est pour ça. Et c'est aussi pour offrir aux jeunes des moments forts avec Dieu. Des moments forts avec Dieu. Parce que je sais pertinemment que si je n'avais pas eu des moments forts avec Dieu dans ma vie, eh bien, je ne serais pas ici. S'il n'y avait pas Dieu qui m'avait parlé puissamment à travers des camps que j'ai faits ou des expériences que j'ai vécues avec lui, s'il n'avait pas eu une place vraiment centrale dans les décisions que j'ai prises, je ne serais pas là. Donc c'est important de pouvoir être une église qui offre ça à nos jeunes. On veut être bien sûr une église qui vit une foi vivante. On ne veut pas vivre une foi du dimanche, mais bien quelque chose de tous les jours. C'est là que j'avais noté ça. Lorsque je fais des sacrifices pour Dieu, il nous réserve des bonnes choses. Le choix d'un conjoint, le choix des études, le choix de la personne que je veux être. On veut être des gens qui vivent une intimité avec Dieu. On veut cultiver notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Pour être fort quand les tempêtes viennent. J'avais partagé un jour qu'on peut regarder dans l'église du 1er siècle, quand Paul leur écrit, eh bien on peut voir dans l'église du 1er siècle, 1er, 2e siècle, quand Paul écrit aux Corinthiens, aux Philippiens, on peut voir qu'ils sont persécutés. Et ça va quand ils sont proches de Dieu, et ça ne va pas quand ils sont loin de Dieu. Mais dans tous les cas, ils sont persécutés. Donc les circonstances ne changent pas, mais la perception des circonstances change. C'est vraiment facile de discerner la volonté de Dieu quand on est proche de lui. C'est vraiment facile d'entendre sa voix quand on est à ses côtés, quand on a une intimité. Maintenant, les choses deviennent un petit peu grises dans notre tête et dans nos vies quand on néglige notre intimité avec Dieu. Alors là, c'est plus dur d'entendre sa voix, c'est plus dur de pouvoir prendre des décisions pour lui. Mais quand on cultive notre intimité avec Dieu, on remarque que notre oreille, elle est plus sensible à sa voix. Et c'est pour ça qu'il faut le cultiver. Quel genre d'église, de personne on veut être, on veut croire dans un nouveau standard de sainteté? Romains 7 et 8 nous parlent de la nouvelle justice devant laquelle on se trouve. Le péché est mort en nous et nous sommes maintenant des créatures qui vivent par l'esprit. Et Paul dit, si on vit par l'esprit, marchons aussi par celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, même si toute notre vie on a eu des choses avec lesquelles on a eu difficile d'être saint, on peut vraiment croire que le standard de sainteté que Dieu nous appelle à vivre, c'est celui de la parole de Dieu. Hein, la chose dans laquelle je suis confronté probablement le plus souvent, c'est la sexualité avant le mariage. C'est quelque chose qui je remarque et beaucoup. Je parlais à des jeunes il y a peut-être un an dans un camp de jeunes et on avait fait passer un questionnaire. Et la question qui est ressortie, c'était, est-ce que c'était des jeunes garçons de 13, 15 ans qui posaient la question, est-ce que c'est possible vraiment de ne pas coucher avant le mariage? Mais c'était une question honnête, hein, c'était pas pour provoquer. Vraiment, est-ce que c'est quelque chose de possible? Parce qu'on dit ça à l'église, mais est-ce que c'est possible? Et je me rends compte un peu que pour ces jeunes garçons qui ont grandi dans l'église, le standard de sainteté avait un petit peu baissé par rapport aux gens. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Hein? Et moi, je les ai vraiment encouragés de dire « oui, c'est possible ». Oui, on peut se réserver pour son conjoint, on peut voir la sexualité comme quelque chose qui est donné par Dieu, et on peut vraiment mettre ça devant lui comme une forme de jeûne, en fait. C'est une forme de jeûne quand on fait ça. Hein, on peut mettre ça comme forme de jeûne devant lui, et on peut dire, ok Seigneur, je vais te laisser prendre cette place dans ma vie à ce moment-là, et je vais réserver ça pour le cadre que tu lui as donné. J'avais donné cette image il y a quelques semaines d'un feu, quand on met le feu dans le foyer. Dans le foyer de la maison, il réchauffe toute la maison. C'est vraiment extraordinaire. Un feu qui est dans une maison, qui est bien placé, ça peut chauffer toute la maison. Maintenant, si on commence à allumer des feux partout dans la maison pourrait brûler. Et ça, parfois, c'est important à se retenir. Alors souvent, il y a des gens qui viennent et qui disent « Ok, c'est pas ce standard de sainteté-là, c'est pas important. Mentir une fois de temps en temps, c'est pas très important. Tricher une fois de temps en temps, c'est pas très important. » Mais alors, ça fait quelque chose dans notre cœur où notre standard de sainteté va baisser de plus en plus. Et le seul truc que moi j'essaie de faire, c'est de vraiment être, et je pense qu'on est appelé à faire, c'est d'être honnête par rapport à Dieu. Ok, Seigneur, ce standard de sainteté-là, je vais pas le baisser. Et c'est là que je vais, et je suis honnête. Je suis pas encore là. Voilà, c'est la direction où je veux aller. Et ça nous déculpabilise un peu. Ok, moi je suis pas encore là, je suis pas saint. Mais on tend vers cette sainteté-là et on ne va pas baisser le standard parce que nos vies ne correspondent pas à celui-ci. Hein? Je vais peut-être changer des choses dans ma vie. Hier soir, celui qui a partagé a vraiment encouragé les jeunes à prendre des décisions concrètes. Ok, je vais changer certaines choses dans ma vie pour pouvoir vraiment continuer à marcher vers cette sainteté-là. Hein? Le processus de devenir saint, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais il faut se rappeler du jour que devant Dieu, on est déjà sanctifié. C'est vraiment important. Et qu'on peut vraiment vivre cette sanctification-là de façon réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque part en nous quelque chose que Dieu a mis où on est déjà saint. Et où on sent, je ne serais pas capable d'arrêter de mentir au travail parce que tout le monde ment. Et c'est comme ça que le travail se fait. Il y a quelque chose en nous, il y a une étincelle céleste qui va nous donner la force de changer les choses. Et ça, je comprends que c'est très difficile à vivre, et c'est très difficile à pouvoir imaginer, mais je pense qu'on peut avoir foi. Ok, Dieu, tu as mis la part de sainteté nécessaire en moi. Je la vois peut-être pas, elle est peut-être pas là, mais je sais que elle est quelque part dans mon cœur. Tu l'as rangée, je dois juste la trouver, et tu vas me donner la force pour affronter les circonstances avec la tête haute. J'ai presque fini parce que je vois qu'on est à beaucoup de points ici. On veut être un peuple qui va plus loin en cultivant la prière. On veut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini, il y a plus de gens à toucher, il y a plus de gens qui doivent connaître Dieu. Et on veut pouvoir cultiver cette culture de prière, où on prie pour les choses qui nous tracassent, où on prie, où on remet les choses à Dieu. Hein? En fait, à chaque fois qu'on se tracasse, on devrait prier. Et ça enlève nos tracas. Donc si tu es tracassé, tu ne pries pas assez, c'est facile. Hein? C'est assez simple. Mais c'est vrai parce que quand on exprime nos tracas à Dieu, c'est assez thérapeutique comme processus. C'est vraiment thérapeutique, ça nous soigne un petit peu. Seigneur, moi, cette situation-là, j'en ai marre, ça m'inquiète. Je ne sais pas comment je vais avoir de l'argent demain.
Hello.
Allô la terre ici, non allô les cieux ici la terre. Hein, Benjamin est paniqué. Alors quand on est paniqué, on va amener ça à Dieu, dire ok Seigneur, moi j'ai besoin que tu me remplisses d'une conviction de foi par rapport à cette situation là. Je veux agir selon ta parole, je veux aller faire un pas de foi envers toi, mais j'ai besoin que tu puisses renouveler ma pensée pour avoir des yeux spirituels sur les circonstances physiques. Et enfin, on veut être à un endroit qui croit en Jésus et qui l'annonce. Dans toutes les choses qu'on fait, on veut amener Jésus et on veut l'annoncer crucifié et ressuscité. C'est tellement important pour notre Église de pouvoir être un endroit qui évangélise, où l'évangélisation en fait partie. Pourquoi ? Parce qu'une Église qui n'évangélise pas, c'est une Église qui grossit spirituellement, qui devient en mauvaise santé. On l'a vu, qui est morte, hein, qui devient morte spirituellement. On peut voir souvent en Belgique, on a eu un petit peu, à cause des circonstances de la société, je ne suis pas là pour donner des excuses ou pour faire des accusations. Quand on n'évangélise plus, qu'est-ce qui se passe ? L'Église un petit peu s'atrophie. C'est-à-dire qu'elle reste, elle fait un peu du surplace. On veut être une Église qui évangélise, qui peut partager sa foi. Et ce n'est pas nécessairement faire des événements, hein, mais c'est peut-être juste inviter des gens à rencontrer Dieu, témoigner autour de nous. Et si on n'en est encore pas là, on peut mettre des choses en place dans nos vies pour pouvoir être plus confortable à partager notre foi. On peut aller avec quelqu'un qui est à l'aise et le suivre et prier derrière. On peut être chacun, se faire partie de cette Église qui évangélise. Amen. Je propose de prier. J'ai partagé énormément de choses aujourd'hui, mais je pense que à plusieurs niveaux, il y avait différentes personnes qui ont entendu différentes choses aujourd'hui. Et je crois que Dieu voulait nous parler à travers ce message-là. Quel genre d'Église on a envie d'être ? Quel genre de personne on a envie d'être quand personne ne regarde ? Ça, c'est la vraie question. Seigneur Jésus, on se tient devant toi, on te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vraiment une lumière à nos pieds. Seigneur, on veut te demander d'être vraiment ce lieu que ta présence puisse résider en tout temps, Jésus. Qu'on puisse être ces personnes qui...